Sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
Il aura donc fallu 5 mois de négociations pour parvenir enfin à un accord lundi dernier à Doha. Le chef de la junte au Tchad et une quarantaine de factions rebelles ont signé un accord sur l'ouverture d'un dialogue national pour la paix le 20 août prochain à N'Djamena. L'accord prévoit entre autres un cessez-le-feu général. Il engage les signataires à ne mener aucune action militaire. Une loi d'amnistie en faveur des rebelles condamnés est également prévue et chaque partie doit libérer les prisonniers capturés dans les divers affrontements. Pour les signataires de l'accord et la communauté internationale, ce texte est donc un moment clé pour le peuple tchadien après 59 ans d'instabilité. Mais deux des principaux groupes rebelles, le CCMSR et le FACT, responsables de l'offensive ayant provoqué la mort de l'ex-président Idriss Déby Itno, c'était en avril 2021, ont refusé de signer cet accord, estimant que leurs revendications n'avaient pas été prises en compte, notamment en ce qui concerne la libération des prisonniers. Des refus qui entraînent des risques de nouveaux conflits, selon la plateforme de la société civile Wakit Tama, qui critique la signature d'un accord a minima et qui a annoncé qu'elle ne participerait pas au dialogue national du 20 août prochain dans ces conditions. Alors comprenez-vous le refus de signer de ces deux factions rebelles? Sans ces signatures, l'accord signé est-il une coquille vide, comme disent certains? Est-ce que cela remet en cause la paix et la réconciliation dans le pays? Nous attendons vos commentaires, vos réactions au 33 9 693 693 70, et sur les réseaux sociaux. Voici d'ailleurs un certain de vos commentaires sur WhatsApp. Brahim de N'Djamena qui nous dit « La réconciliation n'est pas totale et impossible puisque les deux plus grands mouvements rebelles n'ont pas signé. » Abdoulaye, étudiant tchadien à Nanterre, nous écrit « Il faut que le gouvernement accepte les conditions du FACT malgré les divergences. » Richard de N'Djamena écrit « Le président du conseil militaire de transition doit faire preuve de patriotisme en acceptant de quitter le pouvoir à la fin de la transition pour que les principaux rebelles rentrent au pays pour une paix définitive. » Et enfin, Laurent de Kinshasa nous écrit « Le Tchad est à l'image de mon pays, la RDC, à plusieurs groupes armés actifs qui causent des désolations dans le rang du peuple qu'ils prétendent défendre. » Et vous, qu'en pensez-vous? On va tout de suite donner la parole à François qui nous appelle de N'Djamena. Bonjour François.
Oui, bonjour Igor, bonjour à tous.
Pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Vous vous réjouissez de la conclusion de cet accord?
Oui, tout à fait. Je me réjouis de la conclusion de cet accord qui intervient au bout de 5 mois. Vous l'avez rappelé. Vous avez rappelé aussi un fait important, c'est que c'est depuis 59 ans que le Tchad est souvent déstabilisé par des vagues de rébellion. Et donc aujourd'hui, parvenir à un tel accord de paix, notre souhait aurait été que les 52 mouvements rebelles puissent signer cet accord. Malheureusement, il y a 9 qui ont refusé de signer, mais il y a quand même 43 mouvements qui ont signé. C'est déjà quelque chose d'assez important.
Oui, mais parmi ces neuf, François, il y a quand même les deux principaux groupes rebelles, FACT et CCMSR. Est-ce que ça, ce n'est pas problématique?
Non, c'est problématique, mais je crois qu'il y a encore du temps, Monsieur Igor. Je crois qu'il y a encore du temps. Nous sommes encore le 10 et le dialogue s'ouvre donc dans 10 jours à N'Djamena. Et nous espérons.
Oui, mais est-ce que le FACT pourra rejoindre le mouvement en 10 jours alors qu'il a refusé de signer pendant 5 mois?
Mais écoutez, je crois que le FACT peut-être est un peu méfiant également par rapport au rôle qu'il a joué lors donc des attaques qui ont entraîné la mort du président Déby. Peut-être qu'on peut craindre également une certaine méfiance de la part du FACT. Mais même après le dialogue, moi je me dis que le gouvernement qui va être en place après le dialogue pourra toujours tendre la main, n'est-ce pas, à tous les mouvements rebelles, y compris le FACT, pour pouvoir donc aller vers une réconciliation définitive au Tchad.
Mais François, est-ce que vous comprenez les revendications du FACT, notamment quand ils parlent de non-respect de leurs revendications avec la libération des prisonniers? Ce matin, sur l'antenne de RFI au micro de Laurent Corot, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen, disait qu'il y aurait libération des prisonniers, mais à condition qu'ils s'engagent à ne pas regagner les rangs des FACT. Donc est-ce que vous comprenez ce refus de signer de la part des FACT pour un tel prétexte?
Non, je crois que ça serait, moi, de mon point de vue, j'aurais souhaité quand même que l'OFAC participe. Même en plein dialogue, la libération des prisonniers peut intervenir. Et là, je fais observer que déjà, la libération de certains prisonniers a commencé déjà avant même l'ouverture de ce dialogue-là, y compris le dégel des biens des prisonniers ou de ceux qui sont allés en exil, qui ont été confisqués par le pouvoir dans des différentes condamnations, etc. Donc, moi, je pense que nous sommes dans une période d'exception. Le gouvernement de transition a essayé de faire ce qu'il peut, n'est-ce pas, pour pouvoir parvenir à une réconciliation nationale. Donc, il faudrait que de part et d'autre, qu'on essaie également de lâcher un peu du lest pour pouvoir permettre donc une véritable réconciliation au Tchad.
Merci, François, de nous avoir appelé de N'Djamena. Belle journée à vous. On reste à N'Djamena et on accueille Casimir. Casimir, bonjour.
Bonjour Igor, bonjour tout le monde.
Vous, Casimir, à l'inverse de François, vous êtes totalement sceptique.
Je suis totalement sceptique dans la mesure où vous savez que si les négociations de loi devraient aboutir à un support préalable à la construction de la paix via les négociations qui pointent à l'horizon, cela veut dire qu'il faudrait absolument prendre en compte tous les points de vue, notamment les conditions requises pour permettre à tous les fils et filles du pays, y compris les groupes armés, de rester autour de la table de négociation du 20 août pour trouver des solutions. Mais dans la mesure où les conditions posées par un camp n'ont pas été prises en compte et que cela devrait encore servir à poursuivre les mécontentements, je crois que la menace qui pèse sur les négociations, sur la paix, est réelle. Et il faut prendre en compte tout cela. Parce que les négociations sont attendues et à la fin, il faudrait quand même parvenir à un accord. Mais déjà, si les accords de Doha n'ont pas vraiment donné le résultat escompté, cela veut dire que les groupes armés qui se sont désolidarisés de cet accord-là vont encore continuer à poursuivre leurs actions et les menaces vont servir à légitimer leur position en ce moment.
Vous craignez, Casimir, que le début du débat qui doit avoir lieu le 20 août se résume à un monologue, comme vous l'avez dit, et non pas à un dialogue, c'est ça ?
Oui, justement, parce que dans la mesure où des conditions préalables ont été posées par plusieurs camps, d'ailleurs y compris la société civile et le groupe armé, que ces conditions n'ont pas été...
La société civile, c'est Wakitama, vous faites référence à Wakitama, c'est ça ?
C'est Wakitama, mais aussi les nouvelles générations politiques qui...
Avec les Transformers, c'est ça ?
Oui, et bien d'autres partis politiques qui constituent une influence aujourd'hui au pays. Si vraiment ces points de vue-là n'ont pas été pris en compte, ça veut dire que c'est un seul camp qui va dialoguer et la paix qui sera construite sera vraiment éphémère.
Alors, restez avec nous, Casimir. Je vais donner la parole à un autre auditeur. On va du côté d'Abéché. Mahamad, bonjour.
Ah, bonjour.
Soyez le bienvenu, Mahamad. Pour vous, eh bien, c'est une très bonne chose. Le dialogue va nous permettre de tirer un trait sur nos querelles intestines, avez-vous expliqué au Standard.
Justement, nous nous réjouissons de cette approche, puisque ça fait déjà des décennies que le fils du Tchad s'entretient. Et s'il y a un dialogue qui peut déjà réunir tous les fils du Tchad, pour pouvoir résoudre tous les problèmes de ce pays, je pense que c'est une très bonne chose et cela peut nous amener déjà au développement de notre pays.
Alors, Mahamat, je voulais vous demander votre avis sur la position de Casimir. Malheureusement, la ligne se détériore et j'avoue qu'on a du mal à vous comprendre. On va régler ça hors antenne. Donc, ne quittez pas, j'essaye de vous faire revenir à l'antenne. Mais on va tout de suite passer à Nathaniel. Nathaniel, bonjour.
Bonjour Monsieur Hugo, bonjour à tous les auditeurs de l'ARE.
Nathaniel, vous êtes à N'Djamena et vous êtes un peu comme Casimir, hein, vous avez des doutes, vous pensez que ce dialogue est un échec d'avance finalement.
Monsieur Hugo, je suis déçu, je suis en même temps sceptique. Il faut dire que le dialogue national était un échec pour quelques raisons, Monsieur Hugo. La première était son caractère exclusif, entendu que le fait le principal groupe ayant occasionné la chute de Déby a décidé à l'accord de Doha. ainsi que quelques groupes politico-militaires. Et M. Hugo, il faut relever que les revendications du FACT vont un tout petit peu dans le même sens que celles du parti. Les transformateurs, qui est d'ailleurs, hein, il faut le reconnaître, un pion important dans ce petit jeu, qui, je crois bien, refuserait aussi de participer à ce dialogue sous sa forme actuelle. Donc, cela laisse déjà transparaître un échec qu'il faut peut-être souligner d'avance. Donc, à mon avis, c'est que si Mamat Itno, le chef de la junte au pouvoir, n'a pas pu, disons, convaincre ces acteurs, ce n'est pas le peuple tchadien dans sa globalité qui pourra convaincre lors de ces racismes, monsieur Hugo. Il faut également souligner, et là je crois que le FACT l'avait également mentionné dans ses revendications, le comité en charge de l'organisation de ce dialogue qui, à mon sens, je juge très proche de la junte et donc non crédible. Mmh. Au point de mettre en place un présidium autonome pour discuter et prendre des décisions aussi qui puissent aller dans le sens de la cohésion sociale et déboucherait sur des élections libres et transparentes. Donc, ce sont à peu près ces mêmes personnes qui risqueraient de nous présenter un plat tout fait. Et puis voilà, cela va ressembler au dialogue que nous avons eu en 2018-2020. On sort d'un dialogue où tout est déjà connu d'avance et la principale victime dans ces petits jeux reste toujours le peuple tchadien, M. Hugo. Et donc, je crois que à ce niveau, il faut également crier à un échec connu, en fait, d'avance, M. Hugo.
Bon, ça, c'est votre point de vue, Nathaniel, on a bien compris. Je vais redonner la parole à Mahamat Abéché, parce que pour vous, Mahamat, finalement, ce dialogue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va vous permettre de tirer un trait sur les querelles intestines, et surtout, le FACT est dans son bon droit, selon vous.
Oui, M. Igor, je disais que cet accord est le bienvenu, parce que ça nous permettra déjà de nous penser au développement de notre pays. Et notre problème, si le FACT refuse d'apposer sa signature à cet accord de paix, il est dans son droit, puisqu'il a posé déjà un préalable qui lui permettant d'avoir la libération de ses prisonniers. Et je crois que le gouvernement aussi, dans son rôle, de pouvoir aussi...
Ah, alors là, on vous a perdu avec un bruit assourdissant. Est-ce qu'on a toujours Casimir en ligne ou pas? Ou est-ce que Casimir est parti? Casimir, je souhaitais vous faire réagir au propos de Nathaniel, qui insistait un peu, lui, bien sûr, le rôle de Wakitama et de Succès Massra avec les transformateurs. Nathaniel qui pense aussi qu'il pourrait être judicieux de prolonger la transition. Quel est votre point de vue là-dessus?
Ce n'est pas la prolongation de la transition qui constituerait en réalité une réussite aux négociations. C'est beaucoup plus la prise en compte des conditions posées par ces acteurs-là. Parce que de toutes les façons, ce sont des conditions qui, normalement, authentifieraient les négociations qui vont se poursuivre et parviendront à une construction vraiment objective de la paix tant recherchée par les Tchadiens. Parce que du moment où on ne prend pas en compte leurs conditions, leur point de vue, du moment où on se retrouve avec un seul camp qui va dialoguer, qui va procéder à l'organisation du dialogue prochain, ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation et on va toujours revenir à un cycle-là de violence. Et aujourd'hui, si la junte au pouvoir ne prend pas en compte ces points de vue, cela veut dire que toutes les actions à venir qui seraient comme des menaces et tout ça vont légitimer en quelque sorte la position de tous les groupes armés et même de la société civile qui va commencer à se lancer dans des actions d'envergure pour exprimer le mécontentement du peuple.
Bon, eh bien, écoutez, on a bien compris. Merci Casimir. Bonne journée à vous, Anne Jamena. On va partir du côté de Mundu. Semalim, bonjour.
Bonjour Igor, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous vous rejoignez un petit peu, Casimir et Nathaniel, tout à l'heure. Vous êtes déçus. Pour vous, la signature de cet accord, eh bien, c'est tout simplement une farce.
Voilà, pour moi, c'est juste une farce parce qu'on a toujours dit que ce pré-dialogue de Doha consisterait à réconcilier les alliés d'hier et ça s'est réalisé.
Mais en fait, 43 factions rebelles qui ont quand même signé, c'est pas rien.
Écoutez, Igor, les gens ont quitté N'Djamena pour aller où? Est-ce que vous vous rendez compte que Abdel Wahib, le conseiller du PCMT, a paraphé aussi cet accord de paix? Abdel Wahib, ils ont pris les gens N'Djamena, ils ont fabriqué les groupes politico-militaires jusqu'à 44 pour paraphrer. Et pourtant, le fait qui est à l'origine même de la chute de l'ancien régime, on ne considère pas les conditions posées par le FAC.
Il faudrait plus tenir compte des revendications du FAC, selon vous?
Pas seulement les conditions du FAC, mais il faudrait prendre en considération toutes les conditions posées par toutes les parties, que ce soit la société civile, le parti Les Transformateurs, et Wakitama. Les gens ont posé des conditions.
La société civile, bien sûr.
Oui, les gens ont posé les conditions préalables au dialogue sur la table du PCMT depuis plus d'un an.
Alors, restez avec nous, Samalim, restez avec nous. On a Salé de N'Djamena. Salé, bonjour.
Bonjour, monsieur Igor.
Salé, vous ne partagez pas du tout l'avis de Samalim de Mundu. Vous êtes plutôt ravi, vous vous réjouissez de la signature de cet accord.
Oui, moi je me réjouis de la signature de cet accord, qui est un accord historique, je pourrais le qualifier, parce que après plus de 5 mois de négociations, le gouvernement de transition et les politiques militaires sont parvenus à signer un accord qui va leur permettre de participer au dialogue national inclusif prévu le 20 août à N'Djamena. Donc, contrairement à l'auditeur précédent, moi, je trouve que c'est un accord qui a été signé par une quarantaine de mouvements politico-militaires avec la partie gouvernementale.
Salé, même question qu'à un autre auditeur tout à l'heure. 43 membres rebelles, enfin groupes rebelles, mais pas les deux principaux, le CCSMR et le FACT. Est-ce que ça ne pose pas problème?
Oui, moi je pense que si les 40 quelques groupes politico-militaires ont signé l'accord, je crois que c'est déjà un pas en avant. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, c'est pas trop tard, nous sommes encore le 10, donc on peut toujours rejoindre l'accord et on peut donner une chance à ce grand rendez-vous qui est donc le dialogue national inclusif. Le peuple tchadien a besoin de la paix, nous avons fait la guerre pendant des années. Et aujourd'hui, c'est une opportunité.
Oui, mais je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, Salé. Est-ce que l'on peut faire en 10 jours, à savoir faire signer le FACT, alors qu'on n'a pas réussi à le faire en 5 mois?
Oui, bien sûr, si on met au devant l'intérêt général au détriment des autres considérations, on peut bien sûr revenir sur sa décision et rejoindre les Tchadiens pour dialoguer. Je crois que le Tchad vaut plus que tout ça. Donc moi, je pense que c'est l'occasion pour le peuple tchadien de définir le chemin à suivre, de partir sur de nouvelles bases pour construire le pays. Donc nous, on a besoin de la paix.
Mais oui, vous avez besoin de la paix, ça c'est normal. Chaque État a besoin de la paix. Merci Salé, je voudrais qu'on passe à un autre auditeur. On va retourner du côté de Mundu dans le Logone oriental. On va accueillir Salé Ali. Bonjour Salé Ali.
Bonjour Igor, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Pour vous, sans le FACT, cet accord n'a aucun sens?
Effectivement, ça n'a aucun sens. Parce que là, moi, je suis surpris d'écouter certains auditeurs parler des 43 groupes rebelles qui ont signé. Non! Le CMT a créé 43 groupes rebelles pour aller signer un protocole d'accord de paix à Doha. C'est un accord qui exclut les poids lourds aujourd'hui de la rébellion. Si aujourd'hui le Tchad se retrouve, comme les précédents auditeurs l'ont dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et le FACT et le CCMSR aujourd'hui sont les factions rebelles les plus sérieuses. Je ne sais pas sur les 43 groupes signataires, qu'on me donne seulement un seul groupe qui a au moins une colonne de plus de 300 hommes. Donc, il n'y a pas du sérieux. Le gouvernement n'a pas l'intention d'aller à un accord sérieux. Pour preuve, même avec la société civile, qui ne manifeste que les mains vides, le gouvernement n'a jamais créé des conditions qui puissent aboutir à un dialogue sérieux et franc.
Bon, donc pour vous, constat d'échec, on verra si l'avenir vous donne raison, comme le disent certains auditeurs. Il reste encore 10 jours avant le 20 août et le début du dialogue à faire à suivre. Merci Salé, en tout cas, bonne journée à vous. À Mundu, c'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. Demain, nous parlerons à nouveau de la Guinée-Conakry, puisque vous le savez, le gouvernement a annoncé la dissolution du FNDC. Nous attendons vos commentaires, vos réactions, demain dans le débat. Bonne journée à tous.
Atlantique Premium, la carte de crédit de Banque Atlantique, renouvelable jusqu'à 10 000 euros, sans contact, avec abonnement à un programme de fidélité, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique.